Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, paru initialement en 1972, « Vers une écologie de l'esprit » réunit des essais de Gregory Bateson écrits au fil de plusieurs décennies. Cette édition française en deux volumes présente ici le second tome, centré notamment sur la schizophrénie, la biologie de l'évolution, la communication animale, la cybernétique et les crises écologiques. Anthropologue, psychologue et figure majeure de l'école de Palo Alto, Bateson refuse de traiter séparément individus, milieux, cultures et formes de communication. Son projet est épistémologique, comprendre comment les relations, les différences et les boucles de rétroaction organisent les systèmes vivants et sociaux. Le livre ne propose donc ni un traité linéaire, ni une méthode clinique immédiatement applicable. Il compose plutôt une constellation de textes où des problèmes très différents servent à élaborer une pensée systémique. Bateson interroge les prémices qui guident la science moderne et montre que des erreurs de perception ou de raisonnement peuvent produire des pathologies individuelles aussi bien que collectives. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la double contrainte comme modèle relationnel de la souffrance psychique. Le texte vert, une théorie de la schizophrénie, est associé à la théorie de la double contrainte, élaborée par Bateson avec ses collaborateurs. Cette hypothèse ne réduit pas la souffrance psychique à une cause unique située dans un individu. Elle décrit une configuration relationnelle durable dans laquelle une personne reçoit des messages contradictoires sur plusieurs niveaux de communication sans pouvoir signaler la contradiction ni se soustraire réellement à la relation. Par exemple, le contenu verbal peut demander une proximité alors que le comportement non-verbal la refuse. Le problème ne tient pas seulement à deux injonctions incompatibles, il tient aussi au fait que le cadre permettant de les interpréter devient instable. Bateson accorde ainsi une place décisive à la métacommunication, soit la capacité de reconnaître ce que signifie un message et dans quel registre il doit être compris. La théorie a une influence considérable sur la thérapie familiale et la pensée systémique. Elle ne constitue cependant pas une explication clinique suffisante ou universellement validée de la schizophrénie selon les critères contemporains. Sa valeur durable réside surtout dans son analyse des paradoxes communicationnels et dans le déplacement du regard, plutôt que de chercher seulement un défaut interne. Elle invite à examiner les structures de relations, les contraintes mutuelles et les possibilités de sortie du système. Deuxièmement, la cybernétique replace esprit dans les boucles entre organisme et environnement. Pour Bateson, esprit ne désigne pas une substance enfermée dans le cerveau ou dans le corps. Il renvoie à des processus de différence, de transmission informationnelle et de correction qui circulent entre un organisme et son environnement. Cette conception s'appuie sur la cybernétique et la théorie des systèmes, qui étudie les boucles de rétroaction plutôt que les causalités simplement linéaires. Dans un système régulé, une action modifie le milieu, ce changement revient sous forme de signal, puis oriente une réponse ultérieure. Comprendre un comportement impose donc de suivre ce circuit complet. Cette perspective critique les explications qui invoquent de vagues forces internes, des intentions isolées ou une énergie psychique, sans préciser la forme des relations observables. Bateson privilégie les modèles, les distinctions et les organisations qui rendent une conduite intelligible. Son approche a une portée méthodologique, elle demande de ne pas confondre la partie et le système dont elle dépend. Une décision humaine, un symptôme ou une innovation technique peut avoir des effets secondaires qui modifient le contexte initial et transforment le problème. La pensée cybernétique ne promet pas un contrôle total. Elle rappelle au contraire que tout pilotage est limité par les informations disponibles, les retours différés et la complexité des interdépendances. Cette prudence demeure centrale dans le diagnostic des crises écologiques et sociales. Troisièmement, la différence est la forme contre les explications fondées sur la seule substance. Un fil directeur du volume oppose les phénomènes de forme et de différence aux explications centrées sur la matière, la force ou la quantité. Bateson ne nie pas les contraintes matérielles et énergétiques du vivant. Il soutient cependant que les processus mentaux, la communication et organisation ne se comprennent pas adéquatement à partir de ces seules catégories. Une différence devient pertinente lorsqu'elle produit une autre différence dans un système, un signal, une frontière, une variation de comportement ou une distinction de contexte peut modifier une réponse. Cette idée permet de relier la biologie, le langage et les relations sociales sans les réduire les uns aux autres. Les symétries biologiques, les régularités de communication ou les formes d'apprentissage intéressent Bateson parce qu'elles manifestent un ordre relationnel. Il critique ainsi certaines habitudes des sciences du comportement qui donnent un nom à un phénomène pour faire croire que son mécanisme est expliqué. Nommer une disposition, un instinct ou un besoin ne suffit pas si le schéma de relation qui produit le phénomène reste inconnu. Le livre réclame une science attentive aux prémices, capable de confronter les observations à des principes généraux cohérents. Cette exigence rend la lecture abstraite, mais elle fournit un outil critique solide contre les explications circulaires et les découpages disciplinaires trop étroits. Quatrièmement, évolution et communication animale comme terrain pour penser les relations, les essais consacrés à la biologie, à évolution et à la communication chez les cétacés montrent que Batson ne réserve pas ses concepts aux relations humaines. Son intérêt porte sur les conditions formelles qui permettent la coordination, la reconnaissance de signaux et la stabilité de systèmes vivants. Étudier la communication animale ne revient pas à projeter directement le langage humain sur les animaux. Il s'agit plutôt de demander quels indices, quelles répétitions et quels contextes rendent possible une interaction organisée. Cette démarche rejoint sa réflexion sur l'évolution. Les organismes ne sont pas des unités indépendantes qui se modifieraient dans un vide environnemental, mais des participants à des réseaux de contraintes et de différences. Batson se méfie des récits évolutionnistes trop simplifiés, fondés sur une finalité ou sur une adaptation conçue comme un choix conscient. Les transformations biologiques doivent être rapportées aux relations entre variation, sélection, milieu et organisation. Ce déplacement évite aussi de séparer artificiellement nature et culture. Les systèmes sociaux humains, les écosystèmes et les espèces diffèrent par leur histoire et leurs mécanismes, mais ils posent des questions comparables de régulation, de limites et de communication. Le gain intellectuel est une pensée comparative qui ne cherche pas une cause unique, mais les structures de relations susceptibles de relier des domaines habituellement disjoints. En dernier lieu, la critique du but conscient face aux pathologies écologiques collectives. Dans les textes sur épistémologie et écologie, Batson examine les dangers du but conscient lorsqu'il devient le seul principe de action. Une personne ou une institution qui poursuit un objectif isolé tend à sélectionner les variables qui servent immédiatement cet objectif et à négliger les interdépendances qui assurent la viabilité du système entier. Cette restriction de attention peut sembler efficace à court terme, puis produire des déséquilibres, car les conséquences écartées reviennent par les boucles des rétroactions. Batson applique cette critique au rapport entre civilisation industrielle et environnement, mais aussi aux erreurs de pensée qui séparent artificiellement individus, société et nature. Une écologie de l'esprit implique alors une discipline de la perception, reconnaître les contextes, les seuils, les délais et les effets indirects avant de prétendre corriger un problème. Le propos ne fournit pas un programme politique détaillé ni des solutions techniques prêtes à emploi. Il met en cause les prémices qui rendent ces solutions aveugles à leurs propres effets. Cette dimension distingue son écologie d'une simple défense de la nature. Elle concerne aussi les habitudes intellectuelles, les institutions et les modes de communication. La crise écologique apparaît comme une crise de connaissance agir sans comprendre les systèmes de relations dont dépend action, elle-même risque de détruire les conditions de sa réussite. En conclusion, ce second tome conviendra surtout aux lecteurs qui souhaitent comprendre les origines de la pensée systémique dans les sciences humaines, la psychiatrie, la communication, la biologie ou écologie. Il intéressera les étudiants et praticiens de la thérapie familiale, les chercheurs en sciences sociales, les philosophes des sciences, ainsi que les lecteurs préoccupés par les liens entre crise environnementale et mode de connaissance. Il demande une lecture lente, les essais ne suivent pas une progression pédagogique simple et leur vocabulaire conceptuel peut dérouter. En retour, il fournit des instruments intellectuels particulièrement féconds pour repérer les causalités circulaires, les contradictions de communication, les effets de contexte et les limites des explications centrées sur une cause isolée. Sa position dans le genre est singulière. Là où de nombreux ouvrages spécialisés restent à l'intérieur de leur discipline, Batson fait circuler les questions entre clinique, anthropologie, éthologie, théorie de évolution et cybernétique. Cette amplitude ne vise pas une synthèse superficielle, elle repose sur la recherche de formes relationnelles communes. Le livre se distingue aussi des essais écologiques centrés exclusivement sur les ressources ou les politiques publiques. Son écologie porte sur les idées, les prémices et les systèmes de communication qui orientent action collective. Certaines propositions cliniques doivent être replacées dans leur contexte historique, mais la méthode de pensée demeure stimulante. Elle apprend à chercher les relations qui organisent un problème avant de vouloir le résoudre. Si vous souhaitez soutenir Gregory Batson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.